Bonjour. Alors, vous me prierez de m'excuser d'abord de mon émoi, mais c'est la première fois que je fais une conférence de ce type, donc je suis un petit peu impressionnée. Bon, j'ai beau être enseignante, c'est toujours impressionnant quand même d'être devant vous. Donc, je suis enseignante dans l'Académie de Rouen. Je suis ce qu'on appelle PLP, maths sciences, c'est-à-dire professeur de lycée professionnel en maths et en sciences. Je suis aussi formatrice TIS, hein, c'est-à-dire technologie de l'information et de la communication dans l'enseignement. Je m'occupe de quelques sites, notamment le site de mon lycée. J'ai débuté mes sites web en 98 par un site qui s'appelait Mammouthland, en l'honneur d'un ministre de l'Éducation nationale. Et bon, au début, j'ai fait ça avec sans rien connaître aux recommandations du W3C. Et c'était donc en 98. Et en 99, j'ai croisé un certain Karl Dubost qui m'a dit, mais attention, ça se fait pas comme ça. Il y a des choses, il faut respecter un certain nombre de règles, etc. Tu verras, tes sites me passeront beaucoup mieux. Donc, je me suis intéressée à la question et en particulier au CSS. Donc, j'ai commencé à mettre quelques petits tutoriels en ligne. Et c'est une section que j'ai appelée CSS débutant, qui a pris de l'extension. Et puis, un beau jour, un certain Tristan Nito m'a croisé aussi et m'a dit, tiens, mais on est en train de faire un site qui s'appelle Open Web et ce serait bien que tu y participes. Et j'ai dit oui. Donc, tous mes petits tutoriels qui étaient au départ sur Mammouthland ont atterri aussi sur Open Web, au niveau débutant. Voilà, il y a aussi la liste de discussion Pompeur CSS. Alors au départ, c'était une liste qui était uniquement pour Pompage, dont on a déjà parlé. Et puis avec Stéphanie, qui était donc la fondatrice de Pompage, on a fusionné pour faire une liste qui s'appelle donc Pompeur CSS et qui compte actuellement un petit peu plus de 600 membres. Alors je vais commencer par vous retracer un petit peu l'histoire du web. En 1989, donc un certain Tim Berners-Lee a inventé le web. Il était à ce moment-là chercheur au CERN. Et puis en 90, il a mis en place son premier navigateur qui s'appelait le World Wide Web. Après, ça s'appelait Nexus. Puis en 93, premier navigateur grand public, Mosaic. Et enfin, en 94, la fondation du W3C pour éditer justement toutes les recommandations, toutes les normes nécessaires pour la navigation sur le web. Alors, au niveau des CSS plus particulièrement, en 1996, donc ça fait 10 ans, sont sorties les premières recommandations CSS 1. En même temps, côté navigateur, parce que le problème c'est bien l'intégration dans les navigateurs, c'était Netscape 3 et MSIE 3 qui n'implantaient pas ou peu les normes CSS. 97, il y a eu des progrès, donc on est passé aux versions 4, c'est de Netscape et de Internet Explorer, qui supportaient partiellement les CSS 1. En 98, ça va quand même assez vite de ce côté-là, en 98, donc les normes CSS 2 sont parues, et côté navigateur, ça s'est effectivement accéléré, puisqu'il y a eu la sortie de MSIE 5, qui a commencé à prendre toutes les parts de marché, puisque Netscape a commencé à perdre des parts de marché lors de la sortie de MSIE 5. Et puis en 2000, ça fait quand même 6 ans, il y a eu le début du développement des recommandations CSS 3, qui ne sont toujours pas officielles, hein, qui sont toujours en travaux. Et la même année est sorti Netscape 6, qui hélas n'était pas du tout finalisé, il était très lourd, très difficile, donc il n'a pas eu le succès qu'il aurait fallu qu'il ait à ce moment. Depuis l'an 2000, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, on a eu d'abord la sortie de Internet Explorer 6. Depuis 2001, c'est toujours Internet Explorer 6. Alors cela dit, je pense que vous savez que IE 7 est en train de sortir. On a déjà la version release qui est en téléchargement sur le site de Microsoft. Et puis, mais pour l'instant, voilà, c'est toujours Microsoft Internet Explorer 6 qui est en vigueur. En 2002, Mozilla, donc c'est le code open source de Netscape. Donc actuellement, on en est à la version 1.7.3, 2013, je crois, mais le développement de Mozilla, a priori, est abandonné. C'est Simon Kay qui prendrait le relais. En 2003, Opera 7, hein, qui a changé de moteur, je crois, donc avec une version actuelle qui est en 9. Je sais plus bien. Mais qui est donc un navigateur très performant, et aussi le lancement de Safari pour Macintosh. Et en 2004, le célèbre Firefox, dont la sortie de la version 2 ne devrait pas tarder. Alors, tous ces navigateurs supportent les CSS 2, mais évidemment, le problème, c'est Internet Explorer 6, qui n'implémente que partiellement ces normes, d'où les difficultés pour un développeur de mettre en conformité tous les sites, et ça passe bien sur tous les navigateurs. Alors, à quoi servent les CSS? Ben déjà, d'une part, ça sert à séparer le contenu et la présentation, donc ça, vous le savez déjà. Mais ce qui veut dire aussi, pour avoir une feuille de style parfaitement optimisée, d'avoir un code HTML sémantiquement correct et d'éviter la mise en page par tableau. Alors, c'est le gros problème. Certains d'entre vous en ont parlé tout à l'heure. C'est pas forcément évident d'abandonner complètement la mise en page par tableau, mais je vous assure pourtant que c'est vraiment très souple et beaucoup plus pratique qu'avec un tableau. Alors, quelles sont les conséquences si on applique ça correctement? Ben, d'une part, on en a déjà beaucoup parlé, effectivement, une maintenance beaucoup plus aisée, des pages plus rapides à télécharger, puisque toute la partie design est complètement dans la feuille de style. Et puis, forcément, ça a une implication sur les coûts, puisqu'on fait des économies de bande passante. D'autre part, le fait d'avoir des feuilles de style, ça permet d'adapter le rendu des pages aux différents périphériques. Alors, bien sûr, il y a les écrans, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on en a parlé, les lecteurs braille, les lecteurs à synthèse vocale et les imprimantes. Et encore d'autres médias. Et puis autrement, comme vous l'a dit Laurent par exemple tout à l'heure, on peut faire plusieurs pages de design différents et pouvoir passer de l'une à l'autre d'une façon beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Comme ça, l'utilisateur peut choisir l'apparence qui lui convient le mieux. Alors, j'ai choisi de faire une étude de cas, étant dans l'éducation nationale, forcément j'ai pris le site de l'éducation nationale, à ceci près que ce site, tel qu'il est présenté là à l'écran, n'existe plus puisqu'il y a une nouvelle version qui est sortie au 1er septembre pour la rentrée. Donc, on voit que c'est un site relativement classique, on va dire. Il y a le logo là-haut, il y a un petit menu de navigation tout en haut qui est d'ailleurs fait en image, hein, ce qui est un petit peu dommage. Et puis, à gauche, une partie où on a des rubriques, et à droite, la partie actualité avec photos du ministre, etc. Si on se penche un petit peu maintenant du côté derrière l'apparence de cette page, ce fichier était fait en HTML 4.0.1. Il avait un poids de 33 kilooctets. 23 fichiers d'images pour un poids total de 74K, et aussi la présence quand même d'une feuille de style, mais une feuille de style qui n'était pas optimisée au sens où je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la présentation et le contenu en fait n'étaient pas complètement séparés. Alors ça donne en rapport de vitesse, on parlait de ceux qui étaient encore en bas débit pensé, avec un modem 56K, il fallait presque 24 secondes pour charger la page. Ce qui est quand même assez lourd. C'est long, 23 secondes d'attente que toutes les informations se chargent. En ADSL, on est encore aussi, enfin, ADSL 128K, on est encore à 7 secondes, un petit peu plus de 7 secondes. Côté validation, c'était un document non valide. Et puis, côté accessibilité, eh bien, ça n'allait pas non plus. Même le premier stade d'accessibilité, qui est le niveau A, n'était pas atteint. Or, depuis 2002, je crois, les sites gouvernementaux doivent être accessibles au niveau AA, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une nouvelle version du site en ligne maintenant, puisqu'ils ont essayé d'atteindre ce niveau d'accessibilité. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en CSS avec cette page? Ben, d'abord, ça va nous permettre de faire tout ce qui est mise en forme des polices de caractères, des couleurs, au niveau des titres, des paragraphes, des liens, des bordures, de l'aspect des listes, puisque vous voyez que là, dans les rubriques, on a des listes, mais des listes qui sont en ligne, une en dessous de l'autre. Les images de fond, là, il y a quand même pas mal d'images de fond. Alors, elles sont pas toutes évidentes. Enfin, il y a au moins le petit garçon qui est là-bas à gauche. Il y a le logo E de l'éducation nationale. Et puis, il y a aussi le cadre. Vous avez un cadre là, le cadre blanc, qui est assez discret, mais c'est aussi une image de fond. Et puis, les CSS2, ben, ça va servir dans un premier temps. Ça peut pas servir qu'à ça, mais dans un premier temps, ça sert au positionnement. Donc, j'ai repris l'apparence de cette page et j'ai refait cette page en créant donc les trois cadres que vous voyez ici, un cadre en tête, un cadre gris et un cadre d'actualité, et ensuite en les positionnant comme ils le sont actuellement pour remplacer la mise en page par tableau. Donc on va pas évidemment passer tout le code HTML de la page en revue, je vais m'intéresser uniquement à une toute petite section qui est la première de les premières rubriques, où on a donc un titre, ministère, et puis en dessous, une liste de liens. Alors, voilà le code tel qu'il était au départ. Donc, juste pour cette petite partie, donc j'ai mis en rouge le texte qui apparaît vraiment à l'écran. Et puis tout le reste, eh bien, vous voyez, c'est une mise en page par tableau, par exemple. Et pour chaque cellule, il y a des appels à des sélecteurs CSS. Donc, par exemple, là pour le dernier, la lien section, voilà, on voit la police de caractère qui est définie, avec d'ailleurs entre parenthèses un point qui est normalement une unité de mesure qui est plutôt réservée aux imprimantes, et puis la couleur et aussi l'alignement vertical. Et voilà ce que j'ai fait en échange. Donc tout en haut, vous voyez divider rubrique, c'est donc le cadre rubrique que je vais ensuite positionner dans ma feuille de style, et puis les liens, ministère, etc., qui sont donc définis dans une liste à puces, puisque en fait c'est une liste à puces, même si elle est en ligne. On va déterminer qu'elle est en ligne dans la feuille de style aussi. Donc même sans connaître grand chose au code, vous voyez que la deuxième partie est beaucoup plus courte et beaucoup plus lisible que la première. Donc, disposition des cas, ça c'est la partie CSS2, partie positionnement. Donc le cadre d'en tête, il avait une largeur de 760 pixels, pardon. Alors j'ai gardé ça, 760 pixels, parce que sinon il aurait fallu refaire les images, et puis j'avais pas envie de refaire toutes les images. Il est bien évident que c'est pas la meilleure solution, dans la mesure où un écran qui est en 640x800, 760, ça va déborder. Donc c'est pas le meilleur cas, mais c'est celui que j'ai gardé pour plus de facilité. Ensuite, la section rubrique, avec sa définition d'image de fond, de position, de taille, les bordures, etc. Et la section actualité qui était complètement à droite, là aussi avec le positionnement, son image de fond, qui était le E du logo de l'éducation nationale, sa taille et puis sa position, exactement de la même façon. Donc ça, cette partie-là, ça remplace les tableaux. C'est tout. Et maintenant, on peut passer au code absolument sans tableau. De l'autre côté, vous avez bien sûr la mise en forme. Donc là aussi, ça ne se rapporte qu'au petit, de la petite partie que je vous ai définie tout à l'heure. Donc là, c'est des CSS 1, donc celle qui date depuis 10 ans, où on définit pour chaque titre, et puis pour la liste de les différents critères de position. Alors vous voyez là-haut, là par exemple, il y a, là-haut, je sais pas c'est quoi. La puce qui apparaît juste devant le titre, qui était une petite puce blanche, avec une bordure, parce qu'il y avait, c'était souligné en vert, donc voilà, la bordure est définie là aussi. Et puis toute cette partie-là, c'est la liste, avec ici, on va y revenir un petit peu après, display inline, hein, qui permet donc de faire une liste à puces en ligne, et non pas une liste à puces qui est avec les items les uns en dessous des autres. Si on fait le bilan de ce qu'il y avait avant et après, le poids de la page est passé de 33 kg au départ à 11 kg. Donc on a divisé le poids de la page par 3. ce qui fait 67% de gains. Alors, je dis pas qu'à chaque fois qu'on refait des pages, ça fait 67% de gains. Je crois que ce matin, on a parlé grosso modo de 25%, par exemple. Là, la poids de la page au départ n'était peut-être pas très lourd. Mais enfin, bon, on divise quand même par 3. Je pense que le site de l'Éducation nationale est un site excessivement visité. Et donc, le coût en bande passante est quand même important. Les images, j'en ai supprimé quelques-unes, vous verrez, notamment les petites images qui étaient utilisées pour les liens, en tout en haut, pour le menu de navigation, ce qui permet d'alléger là aussi les images et donc de faire un poids de page à charger beaucoup plus faible. Donc là aussi, un gain de 31%. Et donc au niveau des temps de connexion, on passe de 23 secondes à 13 secondes, on gagne 10 secondes. Alors 13 secondes, c'est peut-être encore beaucoup, mais c'est quand même mieux. Et puis on a DSL, évidemment, c'est moins probant, mais quand même, on gagne 42% aussi de temps de connexion. Bien évidemment, je me suis arrangée pour que le document soit valide W3C, et puis aussi pour atteindre le niveau d'accessibilité AA, qui est donc le niveau d'accessibilité requis pour les sites gouvernementaux. Alors, pour voir le résultat, alors ça c'est l'ancienne page, hein, c'est la version originale, voilà telle qu'elle s'apportait. Ça c'est une saisie, une capture d'écran qui a été faite avec IE6, hein, pour vous montrer que sous IE6 c'est possible. Et voici donc la page refaite. Alors vous voyez, il y a un petit décalage qui se fait, mais le résultat final, je pense, est assez proche de ce qu'on avait au départ. Alors, les feuilles de style alternatives, on a vu ça donc dans un premier temps pour avoir quelque chose de plus léger, mais ça ne sert pas qu'à ça. On peut aussi faire plusieurs feuilles de style. Donc, une autre feuille de style pour un design différent, mais aussi une autre feuille de style pour adapter aux autres types de médias. Donc, pour un lecteur vocal, une chose, pour un écran de portable, par exemple, puisque ça va quand même se multiplier, ça, de naviguer sur les portables. Et puis, surtout pour les imprimantes. Je vais vous montrer l'exemple. Je pense que ça vous est déjà arrivé de vouloir imprimer une page. Et puis de vous apercevoir à l'impression que ça ne rentrait pas du tout dans la page. C'est le cas, c'était le cas du moins, avec le site tel qu'il était auparavant. Donc voici ce que ça donnait, voilà. Donc on s'aperçoit que ici c'est tronqué, donc on n'a pas toute l'information, ou alors une fois qu'on a imprimé la page, eh bien, on est obligé de changer l'orientation du papier pour avoir la totalité de la page, qui n'est pas forcément très pratique. Et puis vous avez toutes les images de fond qui apparaissent encore. Donc c'est pas vraiment de l'économie d'encre tout ça. Puis c'est pas forcément intéressant. Quand on imprime une page, c'est pas pour avoir les images. On parle des images de fond du moins. C'est pour avoir le contenu. Donc voici ce que ça peut donner, et ce n'est qu'une suggestion, hein, évidemment. Et grâce au CSS, je peux adapter ma feuille de style, ma présentation à l'imprimante. Donc vous voyez que ce n'est plus du tout la même présentation. Cette fois-ci, on récupère la liste l'un au-dessus de l'autre, avec à côté, et là ça ne fonctionne pas sur Internet Explorer, à côté les liens qui étaient définis dans les listes à puces. Et donc, du coup, toute la page se retrouve en dessous de la partie actualité, sera bien sûr sur la deuxième page. Alors, un petit résumé donc des fonctions feuille de style, hein, CSS2. On a vu donc là qu'on pouvait partir au positionnement. Donc les positionnements, il y en a différentes sortes. On peut faire des positionnements absolus, c'est l'option que j'avais utilisée pour cette page. On peut faire aussi des positionnements relatifs ou fixes. On peut adapter donc évidemment les différentes. On peut adapter aux différents médias. Là, on a vu pour la feuille de style d'impression et puis pour l'écran, mais ça peut être aussi pour un écran de projection comme celui-ci ou pour un fax. On peut faire aussi des feuilles de style pour fax. Les combinateurs. Alors ça, c'est un mot peut-être un petit peu plus obscur, mais je vais vous montrer par des exemples de quoi il en retourne exactement. On peut aussi personnaliser la mise en forme par tableau, parce que de temps en temps, on a quand même vraiment besoin des tableaux. Il y a certaines données qui ne peuvent pas se passer de tableau. Donc, on peut modifier l'aspect des bordures, l'alignement des textes, etc. par la feuille de style. Et c'est des choses, en particulier lorsqu'on en veut des traits fins, des choses qu'on ne peut pas faire directement en HTML. Les pseudo-classes, ce sont tout ce qui est, entre autres pour Hoover, ce sont ces effets qu'on peut avoir quand on survole un lien par une souris, mais on va voir qu'on peut l'appliquer aussi à d'autres choses. On peut définir les largeurs et les hauteurs minimales ou maximales d'un élément. On peut faire des compteurs à numérotation automatique. On peut modifier l'aspect des curseurs. On peut prendre en compte les textes bidirectionnels parce que tout le monde n'écrit pas de gauche à droite, etc. En fait, il y a plein de choses. Ce serait beaucoup trop long, évidemment, de faire toute la liste de ce que comprennent les CSS2. Alors, je vais vous montrer. Alors, mon ordinateur est un petit peu lent, un petit peu vieux, donc vous pouvez m'excuser. Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur les sélecteurs. Par exemple, je voudrais, pour une abréviation, que lorsque c'est un texte, cette abréviation apparaisse en rouge. Donc, vous voyez que CSS, dans le titre, que veut dire CSS, c'est en noir, mais par contre, dans le texte en dessous, c'est en rouge. La solution, c'est d'utiliser... Alors ça, c'était déjà défini en CSS 1. C'est d'utiliser ici le code P et ABR à la suite. Donc, vous voyez ici le code ABBR, qui est donc pour les abréviations. Et juste après la balise P, donc en les mettant l'une derrière l'autre, eh bien, on va appliquer cette couleur rouge uniquement à toutes les abréviations qui sont incluses dans la balise P. Ensuite, vous avez ceci, le combinateur filial, qui permet de faire une descendance. Alors, ça ne passe pas sur Internet Explorer 6. Par contre, Internet Explorer 7, qui est en train de sortir, l'accepte. Je voudrais donc ici que cette partie-là soit en décalage avec un petit bord rose. Donc, j'ai encadré d'un petit div, et dans le code CSS, j'ai donc mis ce signe-là, qui permet de faire comprendre au navigateur que le cadre div qui est dans le cadre rose, hein, je sais pas si vous me suivez, sera avec une marge de 50 pixels et un bord rose. On peut aussi faire des adjacences directes, pardon, en mettant un plus. Donc cette fois-ci, je voulais que mon premier paragraphe, juste en dessous le titre, apparaisse en rose, mais pas les autres. Donc le premier paragraphe qui est juste en dessous de H5 apparaît en rose, et ça se déclare de la façon suivante dans les CSS, H5 plus P avec la couleur adaptée. Plus fort encore, on peut aussi préciser, dans certains cas, les styles à appliquer. Par exemple, ici, j'ai un bloc de citation qui est une citation qui a été récupérée sur le site de Gigi Solaris, qui fait des... Jean-Jacques Solaris, qui fait donc les traductions de certaines docs du W3C. Et je voulais que ça apparaisse en bleu. Mais quand on avait cette URL. Donc dans mon bloc de citation, ici, j'ai l'attribut site, hein, où je donne la référence du site où a été pris ce site web, ce texte. Et donc dans le code CSS, lorsqu'on a l'attribut site, eh bien, on va avoir le bloc de citation qui va être coloré en bleu. Maintenant, je veux aller encore un petit peu plus loin. Je voudrais que quand ce bloc de citation vient du site de Cœur du Post, je veux qu'il soit coloré en vert. Donc, cette fois-ci, je vais aller encore plus loin dans mes critères, c'est-à-dire que je vais dire quand l'attribut site est égal à lagrange.net/w3c, eh bien, le fond devra être en vert. Et ça va s'appliquer uniquement à ça. Alors, les pseudo-classes. Ce sont des sélecteurs aussi qui sont très intéressants. Alors, hélas, là aussi, Internet Explorer ne les accepte pas. Pseudo-éléments, pardon. Par exemple, lorsque l'on a des liens qui vont vers... des sites étrangers, je voudrais qu'il y ait un petit drapeau qui soit derrière pour indiquer la langue qui est utilisée. Donc, par exemple, quand c'est en français, qu'il apparaisse un petit drapeau français, quand c'est en anglais, un petit drapeau anglais, etc. Donc là aussi, quand le référence de la langue est FR, ben, après, on va mettre le petit logo du drapeau français, quand c'est EN, un petit drapeau en anglais, et puis quand ce sont les autres langues, que ce soit noté en gris, donc c'est bien ce qu'on a ici. Là, le site allemand, il n'a pas de drapeau, il est juste, mais par contre, on retrouve l'attribut de langue. Alors, apparemment, c'est pas encore assez rapide. Juste pour vous montrer aussi quand même ceci. D'habitude, pour faire des focus dans des formulaires, on utilise un JavaScript. Mais avec les CSS, on peut le faire aussi de façon très très simple. Il suffit donc de mettre le pseudo-élément focus derrière le code adapté. Je vous ai parlé de Hover tout à l'heure, qui permet donc de changer une apparence au moment d'un survol. Dans Internet Explorer, ça ne marche que pour les liens, comme ici par exemple, mais on peut le faire aussi sur d'autres éléments. Par exemple, je veux faire un zoom sur une photo. Donc j'ai défini simplement les tailles différentes quand l'image est au départ, et puis quand elle est survolée, eh bien le cadre change, et puis la taille de la photo change aussi. Voilà, très rapidement aussi, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'apparence des tables, avec donc un cadre noir et puis des cellules séparées par un trait rose. Là aussi, on définit pour le cadre table, on définit que c'est un bord noir. Pour les autres cellules, on définit que ce sont des lignes roses. Je définis aussi la taille des cellules d'ailleurs. Et puis, autre chose qui est très intéressante aussi, c'est quand on veut, par exemple, faire une liste, mais une liste qui a cette apparence de boutons de taille absolument égale. Alors, si on utilise une liste à puces, c'est assez compliqué d'obtenir une taille comme ça, identique pour toutes les cases. L'astuce, c'est de faire, en fait, un paragraphe normal, oui, c'est un paragraphe normal, mais dans lequel on va définir un display block, ce qui permet de passer à la ligne à chaque fois qu'il y a un changement de lien. Ou alors une liste à puces que je veux en ligne, c'était l'exemple dans le site de l'Éducation nationale, et cette fois-ci, je vais utiliser le display inline. Donc, vous voyez ici, display bloc pour les paragraphes, on passe à la ligne à chaque fois, et au contraire là, on est en ligne. Je ne vais pas avoir le temps de tout faire. On peut aussi simuler une table sans faire de table. Alors voici l'exemple. Là, c'est un code de paragraphe normal. Mais par contre, dans le code CSS, eh bien, on a dit au paragraphe de se comporter comme une table. Et puis les petits curseurs. Bon, ça, c'est plus anecdotique. Vous voyez qu'en changeant, en passant, on a des curseurs différents. Alors, la seule chose qui fonctionne pas là sous Firefox, c'est le curseur personnalisé. Mais par contre, ça fonctionne sur Internet Explorer. Alors, très rapidement, puisque les CSS 3, alors c'est dommage, il y a énormément de choses dans les CSS 3. Alors, bon, il y aura plus de sélecteurs, plus de combinateurs et de pseudo-éléments. On va pouvoir aussi adapter les feuilles de style encore d'une façon beaucoup plus fine en utilisant des media queries. Daniel en dira plus que moi sur ce genre de choses. On va pouvoir faire du multicolonnage. On va pouvoir mettre plusieurs images de fond dans le même élément, on va pouvoir faire des coins arrondis, on va pouvoir mettre plus de bordures, des bordures en image, on va pouvoir donner des apparences d'onglets, on va pouvoir étirer une image dans un cadre, etc., etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Je vous montre rapidement, puisqu'il ne reste plus assez de temps, je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc voilà pour le multicolonnage. Alors ça fonctionne avec Firefox là, mais avec une petite patch là, qui est cette petite chose là. Donc évidemment c'est juste adapté à Firefox hein, pour l'instant, mais ça va être normalement partout après. Donc qui permet d'avoir trois colonnes par exemple. Voilà l'exemple des coins arrondis. Donc là pareil, c'est avec petit mouse devant pour comprendre, faire comprendre en Firefox ce qu'il faut faire. Là, ce sont des captures d'écran que j'ai été faire sur les pages du W3C. Donc, les styles de bordure, bon, toutes celles-là existent déjà. Par contre, ça, celle-là, ce sont des nouvelles. On pourra aussi, donc normalement, faire des cadres avec des bordures en images. Donc, toujours des exemples qui sont tirés du site du W3C. Voilà le motif de base. Voilà ce que ça peut donner. On devrait aussi pouvoir faire des effets d'ombre sur des caractères. Voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'étirement d'une image en fonction de l'élément, donc avec plusieurs possibilités selon ce qu'on va vouloir. On va pouvoir aussi, sans utiliser d'image, modifier l'apparence des éléments. Là, par exemple, c'était pour les boutons. Voilà un exemple d'onglet dont je vous parlais aussi tout à l'heure. On va pouvoir faire une présentation par onglet. On peut aussi, normalement, sans image aussi, faire des effets de relief de caractère. Plus de curseurs. Là, vous avez Progress, là vous avez la cellule, voilà, tout ça. Et puis encore plein d'autres choses, mais hélas, on n'a plus le temps. 3 minutes, j'ai fini, en fait, du coup.
Je rappelle que c'est une première, donc innovation pour Pascal. Alors Pascal, c'est là que ça se corse. Contrairement à tes élèves, eux, ils ont des questions. Ils attendent pas encore la cantine, tu vois, donc tu vas voir.
Je vais essayer d'être à la hauteur, je sais pas si je vais y arriver.
Bonjour, Jacques Pira, Pira.net. Une petite remarque sur l'usage des drapeaux. Il y a dans la salle au moins un Canadien, un Québécois et un Belge qui ne doivent pas se reconnaître avec la langue française dans un drapeau qui n'est pas celui de leur pays.
Oui, non, mais c'est un exemple d'illustration. Mais vous avez vu, par exemple, pour le troisième, où c'était le lien vers un site allemand, c'était DE qui apparaissait. Donc, on peut très bien faire la même chose pour un site canadien en mettant FRCA. Comme ça, on sait très bien que ça vient du site canadien. Voilà.
Oui, bonjour, Olivier Boissin de FTL Informatique. Pour votre site sur l'éducation nationale, vous êtes passé de l'HTML 4.0 au XHTML. J'aimerais savoir ce qui a motivé cette décision. Sachant que moi, personnellement, j'y vois pas beaucoup d'avantages. Voilà.
Pourquoi utiliser une C2 plutôt qu'une 2 chevaux? J'ai dit, la 2 chevaux est révolue maintenant. Maintenant, c'est la C2. Voilà, c'est une question. Les normes avancent, on s'adapte aux dernières normes. Pas seulement. Non, ça ne vous convient pas comme réponse.
Bon, Carl Dubas, W3C. Donc, qu'on soit bien clair, il n'y a rien qui force quelqu'un à utiliser XHTML 1.0 ou XHTML 1.1. Il est nulle part dit sur le site du W3C que vous êtes forcé de passer à une nouvelle version de la norme. Vous pouvez avoir des avantages à le faire. Ça dépend des gens, ça dépend des personnes, etc. Moi, je sais que j'ai un intérêt sur certains sites à le faire en XHTML, c'est que c'est du XML. Et du XML, ça s'intègre bien dans, on va dire, une sorte de hub XML qui permet de réutiliser les contenus. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez appliquer plus facilement une accessibility sur un document. Tout à l'heure, on a un peu parlé de la technologie mobile, par exemple, des téléphones mobiles. C'est pas une grande réalité en Europe. C'est une réalité totale en Asie. Je vis à Tokyo. Les gens utilisent leur téléphone en permanence. Ils l'utilisent pour consulter du contenu, et faire des choses avec le contenu, pas seulement le regarder. Et il y a une, je sais plus quelle compagnie de téléphone au Japon, mais ils ont 20 millions de téléphones déployés qui ne fonctionnent qu'en XHTML plus CSS. Donc c'est une réalité concrète. Mais bien sûr, vous allez avoir des téléphones, mais vous allez avoir des téléphones qui ne fonctionnent aussi. C'est-à-dire que quand le téléphone tombe sur du contenu HTML, le CSS a beaucoup de mal à être. Et pour ces téléphones-là, ils ont choisi de pas avoir à faire du parsing de tag soup, etc. Ils appliquent les CSS que sur un XHTML qui est correct. Donc, on peut faire du HTML4 correct, strict, sans aucun problème. Vous ne serez pas brûlé sur un bûcher, etc. Vous pouvez avoir des avantages à passer à du XHTML. Personnellement, moi qui travaille, alors là, d'un point de vue, pas du tout avec ma casquette W3C, mais quand je fais un site web, je préfère faire du XHTML parce que j'aime bien voir les tags clos, etc. Donc, je suis peut-être un peu psychorigide là-dessus. Mais c'est un choix. C'est vraiment un choix.
Un autre petit élément de réponse éventuellement, parce que bon, en tant que prof de maths, ça m'intéresse. Il y a un langage qui s'appelle le MathML, hein, qui permet donc de faire de l'écriture de mathématiques sans être obligé de faire des images pour faire des intégrales ou je ne sais quoi. Et ça ne peut passer qu'en XHTML.
Bonne réponse de Pascal.
Alors, pour un site généraliste, bon, d'accord, effectivement. Moi, en tant que prof de maths, effectivement, je préfère prendre de l'XHTML. Excusez-moi.
Avant que le Canadien prenne la parole, un des Belges présents dans la salle va peut-être expliquer un peu avec les drapeaux. La Belgique est un petit pays au sein duquel il y a trois langues nationales, le français, le néerlandais et l'allemand. Donc on peut pas utiliser, je sais plus qui avait posé la question, ce drapeau. Il y en a même détail. Certains extrémistes qui aimeraient bien le déchirer ou le brûler. Alors vaut mieux éviter. Donc la plupart du temps on utilise les initiales de la langue, le FR pour français, le NL pour néerlandais et le D pour l'allemand.
Ouais. Non, mais c'était juste un titre d'exemple. Non, pour montrer qu'on pouvait mettre ou des images ou du texte ou l'attribut de HreFlang.
Alors Daniel,
un cas dans lequel ça ne peut pas marcher. C'est dans le cas où vous êtes dans un autre alphabet. Dans un autre carset. Imaginez, vous écrivez, je sais pas, en malayalam, en Inde, et vous mettez NL. Ça veut rien dire pour le lecteur. Ça, c'est un véritable problème. Vous ne pouvez pas utiliser l'attribut tel qu'il est précisé dans le HFM. Vous êtes obligé de mettre autre chose, le nom du pays ou un drapeau. Et vaut mieux mettre un drapeau que rien du tout.
Je propose que nous gardions quelques points techniques précis pour demain. Daniel n'a pas pu s'empêcher. Une autre question, je crois, derrière là-bas.
Donc Jean-Rémy Duboc, c'était juste une remarque, en fait. On a parlé rapidement des tableaux qui ont été utilisés, d'après ce que j'ai compris, quand même dans une certaine mesure sur le nouveau site de l'éducation nationale. Je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que on parle beaucoup là depuis ce matin de design sans tableaux, donc on n'utilise pas les tableaux pour faire du design, mais par contre c'est très important de souligner ça. On peut présenter des données qui rentrent dans un tableau où on aura besoin d'un tableau dans un tableau HTML classique.
Oui, tout à fait.
Ce qui est important, c'est de faire la différence entre le tableau pour présenter une page et le tableau pour faire du sens dans cette page.
En fait, la mise en page par tableau a été détournée au départ quand c'était encore la version Netscape 4, etc. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire. Les CSS2 n'étaient pas encore suffisamment bien implémentés pour pouvoir faire du positionnement autrement. Ça a été détourné. Mais bien entendu, parfois, on a besoin du tableau. Encore une fois, en tant que prof de maths, lorsque j'ai des calculs de coordonnées de points, je fais un tableau XY. Bon, voilà, c'est un tableau.
D'ailleurs, Pascal ne fait que des tableaux noirs. Pardon. D'autres questions? Pardon, il y a une question de David Latapie là-bas.
Non, c'est pour ajouter...
Rapproche ton micro, s'il te plaît, David.
Oui, c'était pour ajouter, Pascal, que depuis, si je me souviens bien, décembre 2005, mais je pense que tu as quoi compris, puisque tu parles de CSS3, le Advanced Layout permet totalement de conserver une manière tableau, mais avec du plus de CSS. Donc, car il faut savoir, C'est bien beau le CSSP, de positionnement, mais beaucoup de gens qui ont connu le tableau disent que c'est quand même assez peu intuitif à faire. Avec cette CSS3 Advanced Layout qui sort, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Bon, il y a encore quelques mois pour que ça, soit terminé. Soyez optimiste.
Alors Christophe, bon, du Cérimès, j'ai pas bien compris, enfin, vu l'intérêt d'une fonction du CSS qu'on a vu tout à l'heure, c'était avec le bloc, on voyait qu'en fonction de l'adresse qui était citée, oui, c'est apparaissant en rose ou je sais pas quoi. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a une intrusion justement du contenu dans le CSS et je vois pas pourquoi ça se pourra pas se faire au niveau XHTML, ce genre de. Je vois pas l'intérêt dans la CSS d'inclure ça.
L'exemple que Pascal a montré. Il y a plusieurs façons en CSS. Il y a une balise, enfin une propriété content qui permet d'afficher du contenu. Donc là, il faut être très très prudent quand on utilise ça. Là, ce que Pascal a montré, c'était autre chose. Elle a montré quelque chose qui était dans le HTML et qu'elle a réaffiché, c'est-à-dire quelque chose qui était dans un attribut particulier et qu'elle a utilisé une CSS pour pouvoir le réinjecter de façon visible et l'afficher. Donc là, il n'y avait pas de.
Oui, je suis d'accord, mais après dans la feuille CSS, on voit bien que si c'est Lagrange, ça va afficher en vert. Je sais pas si on peut voir le code CSS.
Lagrange est toujours en vert.
Donc, en fait, moi, je me posais juste la question de l'utilité de ce truc par rapport à si on pouvait gérer l'information au niveau.
Ok.
Oui.
Le principe à retenir, surtout pour les gens qui démarrent CSS, etc., c'est de ne pas mettre d'informations fondamentales à la page dans la CSS. Et donc de ne pas.
Moi, je pense que site égale Lagrange dans le CSS, c'est une information fondamentale. On aurait pu le mettre dans le code XHTML, ça. Enfin. On a bien bloc code et site égale, c'est dans le CSS.
Là, c'est pas dans la CSS, ça. Hein.
C'est pas dans le CSS, le code site égal et background, padding 10 égale.
Non, le code CSS qui est là est une condition sur la présence de l'attribut site sur bloc-notes et sur sa valeur. D'accord. Ça n'implique rien sur le contenu lui-même. Le contenu peut être radicalement différent de Lagrange. La seule chose qu'on veut, c'est que si on pointe vers Karl, on veut voir en vert. C'est pas du contenu.
Oui, je suis d'accord, mais quel est l'intérêt d'implémenter ça dans le CSS? Pourquoi pas le faire au niveau HTML avec
Parce que c'est de la présentation. D'accord. C'est une condition présentationnelle.
Je vais vous donner un autre exemple qui est utilisé parfois sur les blogs. Quand je crois que c'est le cas sur le blog de Laurent, par exemple. Lorsque c'est Laurent qui répond, ça a une couleur différente des autres commentaires. Comme ça, visuellement, tout de suite, on repère la réponse de Laurent. C'est purement visuel, ça n'a pas d'autre intérêt. Ça n'a pas à être dans le code HTML, ça. C'est justement là où on a la séparation entre présentation et contenu.
Bon, on pourra éventuellement parler de points de détail sur les CSS demain. Un exemple que moi j'aime bien dans ce genre de code, bloc code site égal, puisque vous parlez tous de code, il n'y a pas de raison que je me gêne. Imaginez demain un navigateur que vous connaissez pas encore, qui permette avec un clic droit d'aller directement voir la source d'une citation. Là, vous avez amené de la méta-information sur une citation. Ça vous empêche pas, pourquoi pas, si vous êtes aussi zélé que moi et que vous avez que ça à faire, de le mettre en clair pour les pauvres gens qui n'ont pas de CSS et donc de prendre en compte votre contrainte à vous qui est « je veux que dans mon contenu, je précise ma source ». Très bien, je vais préciser ma source. Voilà où j'ai lu l'information, lien. Voilà l'information. Un moteur, pourquoi pas intelligent, va essayer sur mon site d'extraire toutes les citations et pour toutes ces citations, les replacer dans leur contexte d'origine. Il a ce qu'il faut, je vais donner un attribut site. Voilà un élément de réponse. Alors, puisque l'information est là, et si j'en profitais dans ma feuille de style pour dire ben, « chez Karl, c'est ouvert ». Voilà. C'est pas forcément le meilleur exemple, il n'y a pas de meilleur exemple. On est toujours dans le délicat décisionnel entre la feuille de style et le contenu. La plupart du temps, il y a de bonnes raisons pour le faire. Ça, par exemple, il y a une bonne raison pour le faire. Ça n'empêche pas de citer sa source au-dessus. Voilà ce que je viens de dire chez Karl. Et là, je mets mon URL.
D'autre part, en plus, là, c'est incomplet. Le code CSS qui permet de générer l'adresse, c'est incomplet. En fait, vous avez autre chose derrière, avec le même bloc code et la pseudo-classe after, qui permet donc de réécrire l'URL.
Là, ce que je voulais juste vous montrer, en fait, c'est, enfin, surtout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut changer la couleur éventuellement avec un attribut précis. Après, chacun voit ce qui est important, ce qui est important.
Oui, Fabien Demaison. Juste, tu parles d'un navigateur potentiel qui pourrait, avec un clic, il existe, c'est Opera qui le gère via un attribut propriétaire.
Alors voilà, ça existe. Vous savez, en fait, je passe mon temps à dire aux gens que je forme, vous savez, peut-être un jour, il y a un navigateur qui. La dernière fois que j'ai fait ça, c'est Monique qui m'a répondu. Où est-elle, Monique? On l'a perdue? Elle est là. Et Monique m'a dit, mais tu sais, ça marche déjà. Donc, de toute façon, partez du principe que tout ce que vous faites, qui va aller dans le sens de la sémantisation de vos contenus, pour dire des gros mots, parce que j'en ai pas dit aujourd'hui, on en parlera demain, sans aucun doute, et les orateurs le feront beaucoup mieux que moi, mais tout ce qui va dans le sens de la sémantisation de votre contenu, vous prépare pour un web qui est en train d'arriver, qui est beaucoup moins sexy que le web 2 d'un point de vue décideur, mais qui est sans doute beaucoup plus fondamental sur l'architecture de l'information mondiale. Donc voilà. Et j'ai complètement grillé Carl, il n'a plus rien à dire demain. D'autres questions? Ok, alors Eric me fait signe que c'est l'heure de Louis XVI. C'est ça? Merci, merci à tous. On a à peu près 5 petites minutes pour mettre en place la table ronde. Encore une fois, une ovation pour Pascal pour sa première. Bravo.
Merci.